Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Voilà, comme promis, j'accueille sur le plateau de Tech & Co Fabrice Valentin. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir.
Vice-président responsable de l'intelligence artificielle chez Airbus. L'idée pour vous, c'est quoi? C'est de rencontrer, de s'inspirer de ce que font certaines startups. Ça sert à quoi d'être ici pour Airbus?
C'est aussi montrer une image de l'entreprise qui est peut-être pas évidente pour le grand public ou pour les startups et l'écosystème autour de nous.
On est aussi samedi, c'est tout ouvert pour le grand public c'est ça qui est intéressant. Votre métier chez Airbus, vice-président responsable de l'intelligence artificielle, waouh. Comment se découpe votre quotidien en fait? Quelles sont vos différentes tâches liées à l'intelligence artificielle?
Aujourd'hui, le focus principal dans ce métier, c'est vraiment s'assurer qu'on arrive à déployer une technologie de façon responsable pour tous nos collègues, pour arriver à demain transformer les processus de l'entreprise, mais dès aujourd'hui, l'employer pour des gains de productivité, des gains de qualité à travers tous les secteurs du métier de l'entreprise.
L'intelligence artificielle est un game changer dans une boîte comme Airbus?
Oui, il est en train de le devenir. Et on s'était vu il y a 2 ans, j'aurais dit il le sera un jour. Je pense que 2 ans plus tard, on peut dire qu'il est vraiment en train de le devenir. On voit les métiers se saisir de la technologie pour repenser comment ils font leurs activités. On pourra en parler.
Bien sûr, avec plaisir.
Et je pense que le déclic qu'on voit dans la société est aussi en train de se produire dans les grandes entreprises comme Airbus.
Au quotidien, comment voyez-vous arriver l'intelligence artificielle? Donnez-nous quelques exemples.
Il y a plusieurs couches finalement. On a une couche assez standard, assez facile à appréhender, qui est l'IA de tous les jours, celle qu'on amène avec des outils intégrés dans nos moyens de production quotidiens, dans la gestion d'emails, de documents, de génération de textes. Bon.
Parce que des documents techniques chez Airbus, il doit y en avoir quand même quelques-uns.
Il y en a quelques-uns et je dirais que c'est peut-être là que ça devient intéressant. C'est quand les documents deviennent très techniques, très complexes, et que finalement l'IA un peu généraliste qu'on trouve sur internet le soir à la maison ne fonctionne plus si bien. Et c'est là où le véritable challenge commence, arriver à employer cette technologie sur nos données bien spécifiques.
Et donc vous avez une IA spécifique que vous avez développée, comment faites-vous?
Alors on ne développe pas nos propres IA, là on parle beaucoup de frontier model, IA générative bien sûr, mais bien sûr, on ne développe pas ce genre de modèle. On développe ce qu'il faut autour de ces modèles pour s'assurer qu'on puisse les déployer avec tous les niveaux de sécurité qu'on souhaite.
D'accord.
D'un point de vue technique, d'un point de vue éthique. Mais ensuite, il y a un très gros travail autour du traitement de la donnée, la donnée en amont, et le traitement ou l'adaptation des modèles pour qu'ils fonctionnent bien avec nos données. On le fait nous-mêmes, on le fait avec des partenaires américains ou des partenaires comme Mistral. On vient d'annoncer un partenariat récemment.
Alors justement, partenaire américain, vous bossez avec qui?
On travaille avec Google, on travaille aussi avec Palantir. Bon, sur les pure players de l'IA, je dirais que notre partenaire, c'est vraiment Google aujourd'hui.
Et Mistral, plutôt bonne nouvelle.
Et sur les partenaires européens, souverains, notre partenaire, c'est Mistral. On a annoncé ça en effet il y a quelques semaines.
Et chaque IA a un rôle spécifique? Comment ça se passe? Typiquement Mistral, vous avez signé avec eux, pourquoi?
Alors Mistral, on a signé avec eux clairement pour ouvrir la porte de l'IA dans des contextes souverains. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire des cas d'usage très spécifiques dans la défense, dans le militaire, avec de la donnée très sensible. Mais ça peut aussi vouloir dire des cas d'usage dans le civil, sur de la donnée avec une propriété intellectuelle très stratégique, où on veut s'assurer un contrôle complet à la fois des modèles, de l'endroit où la donnée sont stockées et comment ils sont utilisés. Demain, ça ouvre aussi la porte à aller discuter avec des autorités de certification européennes, par exemple, avec un partenaire local qui nous permet certainement d'appréhender certaines problématiques qu'on n'apprendrait pas avec d'autres partenaires.
Quelle est, à votre avis, l'efficacité la plus spectaculaire de l'IA que vous ayez vue aujourd'hui chez Airbus? Quel est le truc qui vous a fait faire « Waouh, c'est incroyable, je suis impressionné ».
Alors je pense que comme partout, tout ce qui a trait au codage informatique, ce qu'on a vu ces derniers mois est vraiment impressionnant. Les capacités, quel que soit le fournisseur d'ailleurs, mais les capacités de ces modèles sur le développement software, c'est vraiment impressionnant.
On en parlait juste avant vous avec l'un des porte-parole de OpenAI, avec Codex.
Ouais, j'ai entendu, c'est bon. Codex est un exemple, chez les autres acteurs.
La cloud, etc.
Exactement. Par contre, c'est peut-être pas le plus impressionnant dans le contexte Airbus. Notre métier, on fait beaucoup de software, de plus en plus de digital. Notre métier principal, c'est pas forcément du digital. Mais c'est essayer de voir, commencer à voir nos collègues qui emploient cette technologie dans des métiers plus traditionnels et qui trouvent des vrais gains de productivité. Par exemple, aujourd'hui, sur la génération de manuels techniques qu'on fournit à nos compagnies aériennes, on a réussi, on a commencé déjà il y a un an avec Mistral, et rapidement, on a réussi à démontrer qu'il y avait un vrai gain de temps, que ça nous permettait de repenser le métier. Et on commence à engager des efforts pour repenser entièrement le métier, essayer d'arriver à des gains de productivité beaucoup plus grands qu'uniquement un déploiement, je dirais, un peu local ou générique de la technologie.
Sans parler de destruction d'emplois, est-ce qu'il y a des emplois, ou en tout cas des tâches humaines qui vont disparaître chez Airbus et remplacer par d'autres, à votre avis ?
C'est une bonne façon de poser la question, parce que finalement, je pense que déjà des métiers entièrement remplacés par l'IA, ça reste aujourd'hui un petit peu du fantasme ou de la peur, suivant comment on le considère. Par contre, des éléments de processus, donc des tâches entières qui sont peut-être une grosse partie du temps de travail d'un être humain, c'est tout à fait réaliste et on le voit déjà dans certaines activités. L'IA permet de l'automatiser et donc de remplacer l'humain sur cette phase. Par contre, ce n'est pas un remplacement, c'est plus une augmentation de l'employé qui du coup dégage du temps pour des tâches plus pertinentes, pour des tâches plus stratégiques si c'est un analyste, pour des tâches peut-être d'architecte si c'est un designer, des tâches à plus grande valeur ajoutée.
Voilà, donc les tâches à faible valeur ajoutée vont être gérées par l'IA sous le fait d'être supervisé par un humain, c'est ça l'idée.
Ouais. On parle tout le temps en bon français de human in the loop, garder l'humain dans la boucle. Je rigole un peu quand je dis ça, c'est absolument essentiel et c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, parce que c'est pas uniquement se dire j'ai un humain qui valide à la fin un certain processus ou une certaine création faite par une IA. C'est comment penser l'être humain dans un processus complexe, quels sont les garde-fous où il faut qu'un être humain branche son cerveau finalement, soit vraiment à regarder des résultats, les qualifier, et quelles sont les phases des processus qu'on peut automatiser avec la technologie.
On rentre dans le cockpit. Allez, est-ce que l'IA aujourd'hui est en train de changer aussi la manière dont on pilote un avion, d'un commandant de bord ou un copilote? Est-ce que ça change des choses?
Alors je dirais qu'aujourd'hui l'IA change vraiment notre façon de voir les moyens de designer, produire, construire, supporter les avions. Elle change pas encore la façon d'opérer les machines. On voit l'IA comme un véritable assistant au pilote dans le contexte du pilotage à terme. Donc aujourd'hui, ce sont des projets qu'on mène qui sont à l'état de recherche. Si vous êtes intéressé, vous pouvez monter sur notre stand, voir quelques démonstrateurs d'un système pour aider les pilotes à poser les avions quand d'autres capteurs pourraient être défaillants ou ne fonctionneraient pas pour des questions spécifiques. On a une démonstration aussi d'automates pour essayer d'optimiser le taxiing de l'avion au sol. Donc je pense qu'il faut plutôt voir ça comme un assistant supplémentaire, un moyen d'information, de prise de décision supplémentaire qui permet de baisser la charge cognitive sur les pilotes ou sur le personnel à bord de nos produits.
On parle beaucoup de véhicules autonomes, etc. Mais finalement, c'est un sujet dont vous vous êtes emparé la praticité depuis de très nombreuses années, en fait. Combien de pourcentage de vols aujourd'hui est fait en autonomie sur un avion? C'est énorme, non?
Alors, j'ai pas le pourcentage en tête, mais vous avez raison, c'est une pratique qu'on emploie depuis longtemps, avec des systèmes qui ont été qualifiés de façon très, très déterministe, dans des enveloppes de vol très, très spécifiques. La question autour de l'IA, c'est bien sûr la même question que quand on l'emploie dans nos processus, c'est cet aspect finalement probabiliste boîte noire, qui est la grande question au niveau de la certification. Comment s'assurer qu'on crée la transparence, l'explicabilité de ce genre de modèle pour arriver au même niveau de sécurité? Et voire même notre optique, c'est plutôt de le penser à l'inverse. Qu'est-ce qu'on peut faire grâce à l'IA pour augmenter le niveau de sécurité d'exploitation des appareils?
Ouais, c'est pas le fait de se dire on n'aura pas besoin de pilote finalement. C'est pas ça la question. C'est comment on peut améliorer encore l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde. C'est
exactement,
ça l'idée.
C'est exactement.
Et vous
ça.
Vous pensez que l'IA peut aller encore plus loin là?
Je ne sais pas si on peut définir de limite à où l'IA ira. Par contre, de mon vivant, de ce que je vois aujourd'hui, je pense que c'est très réaliste de s'imaginer ça comme un système qui permet d'améliorer la safety à terme dans nos avions. Avoir des avions.
Et corriger parfois les erreurs humaines aussi.
Les corriger ou les anticiper.
Les
ou
anticiper,
les contrebalancer,
bien évidemment.
Ça peut être ce genre d'approche. On le voit dans l'automobile, l'évolution ces dernières années. On voit que c'est quand même loin d'être évident aussi dans ce domaine. Donc je pense qu'il faut garder la tête froide. C'est une technologie très prometteuse. Les étapes pour la déployer de façon opérationnelle et certifiable dans nos contextes, elles sont quand même.
Et pour les passagers, moi qui suis, non pas dans le cockpit, mais installé comme ça dans l'avion, l'IA, ça change quelque chose dans la conception des avions, pour le confort, pour les matériaux, des choses comme ça?
Alors c'est une bonne question parce qu'on travaille aujourd'hui très activement sur la question, notamment depuis qu'on a signé le partenariat avec Mistral, mais c'est quelque chose qu'on a commencé il y a de nombreuses années aussi. C'est penser comment pouvoir employer l'IA dans les phases amont de design, par exemple, de l'avion. Parce qu'on peut explorer beaucoup plus rapidement, plus d'espace, ce qui nous permet d'obtenir des designs de meilleure qualité, ce qui nous permet d'accélérer des phases aussi de pré-design et qui ne sont pas incompatibles avec nos processus de certification actuels. Et c'est ça qui est peut-être la beauté dans l'approche, c'est de se dire, on va explorer plus, donc on va obtenir des produits de meilleure qualité, on va pouvoir rester compatible avec le reste du système actuel. Donc on voit un chemin de transition vers nos façons de faire et des façons futures. Ce qui est essentiel, parce que la clé, c'est l'adoption et le déploiement.
Très bien, ben merci beaucoup Fabrice pour toutes ces précisions. Vous êtes le vice-président responsable de l'intelligence artificielle chez Airbus. Merci d'être passé nous voir. Vous êtes juste au-dessus, tiens, si vous passez samedi à Vivatech, donc vous êtes au deuxième étage, c'est ça ?
Troisième étage.
Troisième étage, voilà. Pour avoir des petites démos, etc., etc.
Exactement. Les collègues se font un plaisir.
Voilà, puisque samedi, rappelons-le, Vivatech est ouvert au grand public. Et ça, c'est plutôt une très bonne initiative.